France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Alex Vizorek.
Elsa Boublil.
L'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler.
C'est sur cette berceuse de Moussorgski, chantée a cappella par Machia Predit dans Mort à Venise de Luchino Visconti, que nous vous accueillons, Alex Vizorek. Vous qui vous moquez avec tant d'humour et d'amitié.
Et de respect.
Oui, de ce chef-d'œuvre cinématographique dont la lenteur semble vous étourdir et qui rejoint cette phrase que vous avez prononcée en début d'émission. L'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on ne peut pas en parler. Vous le faites avec brio. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour, merci.
Vous êtes donc humoriste, vous officiez sur la radio voisine, vous avez fait quelques mètres pour venir nous voir, France Inter.
J'avais le badge.
Une grande sœur, heureusement que vous l'aviez. Une grande sœur, mais petite concurrente, on peut le dire. Et vous vous produisez également sur scène dans un spectacle que vous avez écrit et qui est vraiment remarquable. Alex Vizorek est une œuvre d'art, je le disais, parce que vous arrivez à vous moquer de l'art et à attirer l'attention du spectateur sur des œuvres peut-être sur lesquelles on ne se serait pas penché, et notamment musicales.
Oui, c'est-à-dire que mon point de départ, j'avais un petit peu pris sur l'Oulipo, qui aimait bien se mettre des contraintes pour écrire. Donc je m'étais dit, j'ai envie de monter sur scène, j'ai pas envie de parler de moi parce que je suis personne, et puis qui s'intéressera. Et puis je me suis dit, Luchini parle de littérature, il maîtrise le sujet, il en parle très bien, mais on rigole. Est-ce que je pourrais pas, à l'inverse, sans maîtriser un sujet, en parler, peut-être en faisant des recherches, en parler correctement et rigoler. J'ai été plongé un peu dans l'art, j'étais au cours Florent, donc on a beaucoup le temps entre les quelques heures de cours. On est censé apprendre son texte le reste du temps, mais bon, on a le temps d'aller au cinéma dans le Quartier Latin voir des vieux films, d'où je tombe sur Mort à Venise. On a le temps d'aller dans des musées. Et donc, de temps en temps, on tombe sur des œuvres et on se questionne. On a le temps de lire des bouquins. On a le temps de se poser des questions sur pourquoi un joueur de musique choisit la cymbale comme instrument dans la musique. Et tout ça ensemble a fait un spectacle que j'ai voulu d'humour, mais aussi une porte d'entrée pour les gens qui auient peur de l'art. Et ce que vous disiez par rapport au respect, moi, si des gens, après avoir vu mon spectacle, ont envie de regarder Mort à Venise et de passer 2h11, j'ai chronométré, devant le film, je trouve que j'ai tout gagné. Et puis, ils ont le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Ça, c'est un autre problème.
Et puis, vous parlez beaucoup de musique dans ce spectacle, d'art, comme on le disait, avec le regard de celui qui ne sait pas trop quoi en penser. Mmh. Et c'est parfait, puisque aujourd'hui, vous êtes l'invité de Musique et moi et on va pouvoir nous interroger ensemble sur l'émotion que produisent les musiques sur vous. Mmh. Je voulais aussi préciser, puisqu'on parle de musique, que vous allez être récitant dans Carmen de Bizet à l'Opéra National de Lille. Vous allez être accompagné par l'Orchestre National de Lille et à la direction Alexandre Bloch.
Oui, je suis très
fier. Ça, c'est début juillet, c'est parfait pour finir cette année musicale avec vous. Merci Alex Vizorek d'être l'invité de Musique et moi jusqu'à midi et demi.
Thank you.
Olga Pasichnik avec l'Orchestre symphonique du Théâtre de la Monnaie sous la direction de Marc Soustrau interprète cette air de la flûte enchantée, Ach, ich fühle es, de l'acte 2, donc de la flûte enchantée de Mozart. Cette air de Pamina dans lequel Pamina pense que Tamino ne l'aime plus et donc elle lui dit que voilà, je le sens, elle est évanouie à jamais, la joie de l'amour, jamais plus instant de bonheur, vous ne reviendrez en mon cœur. Vois Tamino, ses larmes coulent pour toi seul, mon bien-aimé. Si tu ne ressens pas la peine de l'amour, alors je trouverai le repos dans la mort. Pour commencer cette émission avec vous, Alex Vizorek. En tout cas, c'est un air pour illustrer votre première rencontre avec la musique classique. Rencontre un peu tardive.
Je ne sais pas si on peut dire tardive.
Je ne sais pas. Lycée, non?
Non, j'avais 11 ans.
Ah oui, non, c'était jeune.
Mais tardive, sans doute, pour quelqu'un qui n'est pas né dans une famille de musique classique. Je caricature, mais c'est pas tant que ça. Mon père, fan de Johnny, ma mère, fan de Julien Clerc. Donc, j'avais vu les deux avant de voir mon premier chanteur d'opéra. Et c'est par l'école. C'est-à-dire que c'est pas que mes parents étaient contre l'idée de m'emmener, mais ça ne...
C'était pas dans leur culture.
Exactement. Voilà, passer devant la Monnaie. C'est gentil d'avoir choisi la Monnaie de Bruxelles.
Oui, parce que vous avez grandi à Bruxelles.
J'ai grandi à Bruxelles et c'est d'ailleurs à la Monnaie que j'ai vu la flûte enchantée, parce que je pense que c'était un programme qui venait chercher les classes aux alentours. Moi, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, j'étais au Sablon à l'école, donc vraiment pas loin. Donc
on est dans le centre de Bruxelles.
Dans le centre de Bruxelles, on est descendu à pied, main dans la main avec son petit copain et son cartable dans le dos pour aller voir une répétition. Donc on était dans la salle vide de la Monnaie au deuxième balcon. Et on voyait donc les décors se monter, les chanteurs chanter et les musiciens jouer. Et donc on a découvert ce théâtre plus qu'est l'opéra, que si on ne vous y emmène pas en tant que gosse, je ne sais pas combien de pourcents de Français ou de Belges sont allés un jour dans un opéra, ont vu un jour un opéra. Et c'est super qu'il y ait des facilités comme celle-là pour les écoles, parce que, donc, étant au centre de Bruxelles, c'était une école, Bruxelles n'est pas faite comme Paris. C'est-à-dire que le populaire est au milieu. À Paris, c'est en dehors. Et donc, j'avais une classe remplie de toutes les classes sociales et très multiculturelles, et on est allés ensemble à l'opéra. Je pense que c'est important.
Et quel souvenir ça vous a laissé, je veux dire, sur le plan émotionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Vous avez très bien décrit la sensation visuelle. Mmh. Est-ce que sur le plan auditif, il y a quelque chose qui s'est produit, Alex Vizorek?
Première fois qu'une voix lyrique, je vais dire comme ça, mais vous allez me comprendre, sort d'un corps pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est très surprenant. C'est autre chose que chanter, c'est-à-dire que ça vient du ventre, là où chanter, il y a un côté interprète qu'on peut retrouver dans les acteurs de théâtre, mais le chant lyrique vient d'ailleurs, et c'est très surprenant, émouvant, et quand entre gamins on papote un peu, quand ça commence à chanter envoyer du bois, si je puis me permettre cette expression.
Sans micro, sans rien, effectivement.
À ce moment-là, tout le monde se tait, et tous les gamins se taisent et observent. Et ce qui était touchant c'est de se dire, en fait, les sentiments, et vous l'avez bien lu tout à l'heure, qui sont décrits, certes en allemand, donc quand on a 11 ans à Bruxelles, ça ne vient pas directement, mais comme c'était bien fait, c'était suivi par une pédagogie, on a compris l'histoire, on nous a expliqué, et c'est une histoire que tout gamin de 11 ans peut comprendre et peut même dessiner. Je pense que c'est ça qu'on avait fait en classe après pour bien s'approprier cet opéra.
Ça a éveillé quelque chose en vous? Disons, qu'est-ce qu'une étincelle, c'est...
On ne sait jamais où sont les graines qui poussent, mais plus on met de graines dans les petites têtes des gamins, plus la créativité les arrose, et putain, ça change ce que je dis. Et à un moment, il y a un truc qui pousse. Je ne sais pas si c'était ce jour-là, mais peut-être.
Per un barriere di
Et le bonheur d'être barbier chanté ici dans l'Argot al factotum, l'acte 1, l'air de Figaro du Barbier de Séville de Rossini, interprété par Cheryl Mintz avec l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction de James Levine. Pour poursuivre avec vous cette conversation, Alex Vizorek, puisque après ce premier coup de cœur, ou du moins cette introduction à l'opéra de la Monnaie à Bruxelles, votre passion pour l'opéra s'est poursuivie ou
c'est
pas tout de suite?
C'est un peu tari et beaucoup plus celle du théâtre. Et c'est pour ça que c'était marrant d'aller voir le Barbier de Séville, parce qu'évidemment, j'avais dû le voir deux ou trois fois sous la forme de Beaumarchais, mais jamais sous la forme de l'opéra. Et c'est mon amoureuse de l'époque, j'avais une vingtaine d'années, qui m'a dit, mais en fait, on va jamais à l'opéra. Moi, mon père, il m'y emmenait, je vais t'y emmener. Et donc, elle m'avait offert pour Noël des places pour le Barbier de Séville à l'opéra Bastille.
Ah, donc là, vous étiez déjà parisien. Les cours Florent avaient commencé.
C'est ça, mais on faisait des allers-retours parce qu'elle n'y était pas. Mais donc, on avait fait un week-end pour venir voir ça. Et j'ai trouvé ça super. C'était rigolo parce que là, justement, ça se terminait. C'était quand on n'a pas l'habitude, ça peut paraître surprenant. Donc le chanteur que, en titre, à la toute fin, quand voilà, sa joie se transforme, il enlève son costume qui était d'époque et il avait un maillot de l'équipe de foot d'Italie et il faisait le tour de l'opéra en sautant de joie de tout son bonheur. Et je me suis dit, cet anachronisme est assez amusant. Et donc, en fait, on a le droit, évidemment, à mettre de l'humour dans ses œuvres qui, pour moi, poussiéreux n'est pas le bon mot, mais sont des œuvres auxquelles on ne touche pas. Et c'est peut-être en voyant ce genre de choses où je me suis dit, mais en fait, là, on a le droit de le toucher. C'est même peut-être en le touchant, en le remettant en question, en le désacralisant, j'aime bien ce mot-là, qu'on le continue à le faire vivre.
Oui, vous disiez poussiéreux, Alex Vizorek. Est-ce que ce sont des œuvres aussi qui font un peu peur, entre guillemets, avec la précaution d'usage de « est-ce que je vais oser parler de la musique que je ne connais pas ?» Est-ce que ça, vous avez éprouvé cela ?
Mais j'ai eu ça encore quand vous m'avez envoyé le questionnaire pour préparer cette émission. Oui. Ce sentiment un peu d'imposture. Et puis je me suis dit, mais si toi tu n'y vas pas pour en parler, il y a peut-être des gens qui en fait n'ont jamais écouté France Musique et quand je vais mettre sur ma page Facebook que je suis venu vous voir, vont écouter, vont
vous
dire...
Vous êtes sympa.
Mais alors je vais le faire. et vont se dire, mais en fait, il était tout aussi nul que moi, il l'est toujours peut-être, voire même plus, et il se permet d'en parler. Et en fait, je crois que c'est justement cette peur, moi, qui m'a fait créer ce spectacle sur l'art. Le fait d'avoir peur de se retrouver devant une œuvre, je vais prendre l'œuvre de peinture ou d'art plastique, la peur de se retrouver devant quelque chose qu'on ne comprendrait pas, fait que des gens ne vont pas au musée. Et je pense que c'est l'erreur. Il faut y aller, il faut passer la porte, il faut voir l'œuvre, et puis il faut se dire, en fait, moi aussi j'ai droit à avoir une émotion face à un tableau blanc, quitte à ce que ça ne représente rien pour soi, mais il s'est passé quelque chose d'artistique à ce moment-là. Le rejet, l'admiration, la surprise, il s'est passé un truc. Si vous n'allez pas au musée, il ne se passera jamais rien.
L'émotion, donc. Hein.
Toujours.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape.
Dis quand reviendras-tu, interprété et écrit par Barbara, cette chanson française en cours d'émission avec vous, Alex Vizorek, parce que vous le disiez, j'imagine que c'est ça, vous nous l'avez d'ailleurs écrit, que vous êtes plus en fait d'une école de chansons françaises que de musique classique, même si on peut le classer dans un classique.
C'est un classique de la chanson française.
Voilà. Votre enfance, donc, c'est Johnny et
Julien Clerc pour maman.
Julien Clerc. Oui. Du coup, faire son chemin dans la musique, l'adolescence, c'est, vous disiez, bon, il y avait le théâtre, et en musique, c'était quoi? C'était Barbara, plutôt?
Alors, Barbara, je l'ai découvert un soir, ça fait étrange, j'ai étudié un examen pour le lendemain, je vais avoir 15 ou 16 ans, et j'en avais marre d'étudier, mes parents dormaient, il devait être minuit, et j'allume la télé, et j'aime bien zapper. Mais c'est pour dire que sur la télé, il y a tout et rien. Je tombe, je crois, qu'en 6 ou 7 sur ma télécommande, c'était Arte. Et c'est un théma, Barbara, pendant une heure. Et je ne connaissais que l'Aigle Noir, parce que chanson de karaoké. Et je découvre cette personne qui parle de manière captivante. Et on fait écouter des chansons. Et je me dis, mais c'est fantastique, j'aime ça. Je connais pas, mais j'aime ça. Donc le lendemain, j'ai fait l'examen. Puis je suis allé acheter un double CD. Hein, pour les jeunes qui nous écoutent, on écoutait la musique là-dessus.
Sur hein,
à
notre époque. CD, voilà.
Hein, et un double CD collector best-of. Et j'ai commencé à l'écouter en boucle, à l'apprendre par cœur. Et puis de Barbara, ben, on va à Moustaki, on va à Mouloudji. On va à Reggiani, et ainsi de suite, on colle les petits morceaux, et ouais. On va à Gainsbourg, et à Gainsbourg, on n'est pas loin de la musique classique, et hop, on arrive à la musique classique.
D'ailleurs.
Et on n'est pas loin de Dvorak.
On va pouvoir en parler.
Voilà.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Avant de vous demander justement pourquoi cette ouverture du carnaval de Dvorak, Alex Vizorek, puisque vous l'utilisez pour commencer votre spectacle, Alex Vizorek est une œuvre d'art, je voulais vous demander, ce choix musical de Barbara, je me suis dit, mais au fond, c'est un mélancolique qui se cache?
Je pense que dans tous les humoristes, il y a ça quelque part. C'est-à-dire que c'est un mélancolique qui a peur de la mélancolie. Donc, et je pense que la mélancolie, c'est un sport individuel. C'est comme les larmes. C'est-à-dire que vous ne me verrez probablement jamais pleurer, mais ça ne veut pas dire que je ne pleure pas. Et je trouve qu'il faut faire ça chez soi. Et donc, effectivement, la mélancolie de Barbara, j'aime encore bien l'écouter seul. C'est peut-être un plaisir de l'écouter avec vous, ce n'est pas la question. Mais.
Vous n'avez pas pleuré.
Ben, j'ai pas pleuré. Mais c'est vrai que, du coup, l'humour, c'est devenu c'est un bouclier, je pense, enfin, aux enterrements. Je me mets toujours à côté de quelqu'un, je sais, un peu d'humour, et j'essaye de lui faire l'un ou l'autre trait d'esprit, parce que j'ai besoin de mettre des mots pour me protéger du moment violent ou nostalgique ou touchant qu'on est en train de vivre.
Alors, pour en revenir à Dvorak, puisqu'on va l'écouter dans quelques instants, cette écriture de spectacle, en fait, ce spectacle a quelques années déjà, Alex Vizorek.
Oui, je le termine. Il a une dizaine d'années, c'est le spectacle avec lequel j'ai commencé. Il a bien évolué maintenant, mais les salles n'ont jamais été aussi remplies. Depuis qu'on m'invite sur France Musique, évidemment, ça a beaucoup aidé.
Ça, vous allez voir, ça va augmenter encore votre auditoire. Pourquoi cette ouverture du carnaval de Dvorak qu'on va écouter dans quelques instants? C'est grâce à Gainsbourg?
Non, madame. c'est parce que j'ai un sketch complet sur le joueur de cymbales. Alors j'avais lu la contrebasse de Suskind où je voyais ce personnage triste de jouer de la contrebasse et je me suis dit c'était rigolo de faire un sketch sur un mec content de jouer des cymbales. C'était pas un grand musicien mais il s'est dit comme ça je vais aller avec les autres. Et donc j'essaye de détricoter toute cette réflexion et il me fallait un morceau dans lequel il y avait beaucoup de cymbales et mon amoureuse de l'époque qui m'avait emmené voir le barbier de Séville m'a dit « Mais tiens, je pense que dans ce morceau de Dvorak, tu vas trouver ça et je pense qu'on va vous aller bien entendre l'écoute ça. »
Auditeur, ouvrez grand vos oreilles. We'll be right back. Ricardo Chailly dirige l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam dans cette ouverture de carnaval de Anton Dvorak. Donc cette ouverture de carnaval que vous utilisez, vous, pour ouvrir votre spectacle, cher Alex Vizorek. Et je ne sais pas, que j'avais envie de vous demander si vous l'aviez écouté déjà en entier.
Oui, enfin en entier, bah, comme là avec vous. Il est dans la machine, c'est-à-dire que si je ne rentre pas sur scène, il est diffusé pendant les 10 minutes. Mais il y a beaucoup de coups de cymbale, hein. Le cymbaliste, il est fatigué à la fin de... Je peux vous raconter une blague, une des seules blagues qu'un musicien classique m'a racontée. Je la trouvais bonne. Ça fait pas toujours rire, mais je pense que sur France Musique, il y a moyen que ça fasse rire. C'est un orchestre de province qui a un peu de mal à vraiment bien s'organiser. Donc, il paye un chef d'orchestre très cher, de qualité, un parisien pointu. Et donc, il vient et il engueule tout le monde, il se la pète, il dit non, il faut pas faire comme ça, machin. Il remet tout le monde à sa place. Et à un moment, il dit bon, et pour demain, vous apprendrez ce morceau. Et il se retourne. Et là, il y a le cymbaliste furieux qui met un grand coup de cymbale pour montrer sa rage. Et le chef d'orchestre se retourne et fait « Qui a fait ça ?»
Voilà. Bon, ben c'est très bien. Justement,
oui, c'est drôle,
je vous entendais parler de ce chef d'orchestre parisien. Et vous, justement, qui êtes, on l'a dit, hein, d'origine belge, ça s'entend même un petit peu quand vous parlez, Alex Vizorek, à peine.
La hollandaise.
La hollandaise, c'est moi. Quand vous êtes venu à Paris, est-ce que justement l'idée de ce spectacle vous est venue aussi avec cette fréquentation, vous me l'avez dit hors micro, c'est cette vie parisienne qui donne envie? Est-ce que c'est à la fois ça donne envie, on a envie de s'en moquer un peu aussi de cette façon de parler de l'art?
C'est ça, c'est-à-dire que si vous traînez au Quartier Latin, près de la Sorbonne, dans n'importe quel petit bar, comme dans les romans de Modiano, il y a toujours un voisin qui lit Bukowski. Et alors, à un moment, quand on arrive, on dit « Mais qui c'est ce Bukowski ?» Et donc, on va chez Gilbert Jeune et on achète son Bukowski et on comprend pourquoi il a raison de lire ça. Et puis, petit à petit, on découvre les choses. Et choses, Georges Perec, hein, boum. Mais oui, mais c'est ce qui raconte le roman. C'est ce qui raconte qu'on est entouré justement de cette culture, certes d'une autre génération, mais on pourrait le refaire aujourd'hui. Et donc, petit à petit, on devient ça. On devient ce qui nous angoissait au début. Et donc, il faut faire très attention à ce moment-là de continuer à essayer de ne pas tomber dans un élitisme qui, moi, je trouve, serait dangereux, tout en étant capable de se perdre dans une inauguration d'un artiste rue de Seine, mais aussi pouvoir parler foot dans un café du coin.
C'est pour ça que j'en profite quand même pour vous dire que mon équipe est convaincue que je n'ai pas compris votre blague. Donc, chers auditeurs...
Moi aussi, je crois. Hein, on est d'accord. Hein.
Donc, ouais, les auditeurs, j'espère que vous avez compris.
Politesse.
En tout cas, ça nous permet... Non, merci. Ça nous permet de poursuivre sur l'histoire du geste, puisqu'il y a le geste de la cymbale, n'est-ce pas? Je commence à comprendre. Ça nous permet d'avancer sur cette question de... Il y a ce snobisme. Mmh. Et puis aussi, effectivement, on a peur qu'à un moment, vous vous mettiez trop du côté de celui qui ne voit pas le geste artistique. C'est-à-dire que vous arrivez à aller à cette frontière de nous faire croire qu'à un moment, vous faites partie de ceux qui trouvent ridicule une œuvre d'art qu'il n'a pas comprise. Et en fait, non. On est à cette frontière-là.
Moi, je la trouve pas ridicule. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui la trouvent ridicule et ils ont le droit. Mmh. Mais j'ai envie aussi de leur expliquer que quand on arrive à peindre un tableau blanc, c'est parce qu'il y a toute une histoire de l'art derrière et qu'à un moment, l'artiste qui est arrivé au tableau blanc est le réceptacle de toute cette histoire de l'art derrière. Et ce tableau blanc raconte quelque chose sur son époque, sur lui-même, sur l'histoire de l'art. Et donc, celui qui veut n'y voir qu'un tableau blanc facile à faire, eh ben, il a le droit. Mais celui qui a envie justement d'intellectualiser toute l'histoire de l'art pour l'aboutissement absolu de l'achrome, Eh bien, il a le droit aussi.
C'est comme ça que vous avez eu envie de nous faire découvrir cette œuvre sublime, 4 minutes 33 de John Cage.
Vous avez pris une bonne version.
Merci.
On sent la professionnelle.
C'est l'original.
Normal. Ouh, elle est bien plus courte. Vous avez squeezé.
On en a pris 50 secondes alors de cette œuvre composée en 1952 et qui est très intéressante. Justement, ça rejoint la conversation qu'on avait à l'instant, Alex Vizorek, sur votre spectacle. Alex Vizorek n'est pas une œuvre d'art.
Est une œuvre.
Voilà.
La prétention.
Le lapsus est une œuvre d'art. Oui. Ça rejoint puisque cette composition de John Cage voulait nous faire entendre pas le silence, mais le bruit qu'il y a autour du silence, qu'on a pu savourer avec vous. Vous-même avez réagi à ce silence qui est perturbant, en fait.
Mais bien évidemment, tout comme la présence d'un tableau blanc. En fait, c'est le tableau blanc en version musicale, hein, le truc de John Cage. Et ce qui est rigolo, c'est qu'Alphonse Allais avait déjà, à l'époque, fait une partition vide et avait appelé ça Requiem pour un sourd, je crois. Et donc, la blague préexistait, sauf que John Cage en a fait une œuvre artistique assumée, mais je ne peux pas croire que lui-même ne trouvait pas ça un peu amusant de voir la réaction des gens face à cette œuvre-là, parce que il y a des codes pour la jouer. Le chef d'orchestre doit arriver, fait lever ses musiciens, les faire asseoir, pose sa baguette et attend le nombre de, je ne sais pas comment vous appelez ça en musique,
de mesures.
De mesures, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ce qui est fou, c'est que cette année, dans le programme, parce que les gens savent que j'en parle dans mon spectacle, donc ils m'ont envoyé quand même une photo. Un des deux orchestres de la Maison de la Radio, lors d'une soirée où il sera joué différents artistes de cette époque, va jouer 4 minutes 33.
Ah, ça, vous y serez.
Bah, j'ai quand même bien envie d'aller le voir une fois en vrai. Et c'est pour ça, je crois qu'on a tendance chez les artistes à leur enlever l'humour. C'est-à-dire que quand Monzoni, qui est un artiste, c'est lui qui avait fait des achromes, et puis il a fait de l'art plastique, et il a notamment mis de la merde dans une boîte qu'il a appelée « merde d'artiste ». Je pense que c'est une blague élevée au rang d'œuvre d'art.
Qui vaut très cher d'ailleurs.
Et qui aujourd'hui vaut, la dernière a été vendue à 130 000 euros. Il y en a 90 dans le monde, il n'y en a pas une de plus, elles sont numérotées. Il a fait ça en 61. Donc moi je pense que soit c'est une blague qui est rendue œuvre d'art, soit c'est une œuvre d'art qui est rendue blague. Mais l'artiste lui-même a trouvé ça drôle à un moment ou à un autre. Les artistes, les grands artistes, sont aussi des gens qui à mon avis sont assez marrants.
Et d'ailleurs, c'est ce qui rend votre spectacle tout à fait touchant, puisque on sent qu'il y a aussi cette, au fur et à mesure qu'on vous entend, qu'on vous découvre, on sent cet attachement à l'artiste. Vous en parliez à l'instant. Je pense à Rostropovitch, par exemple, oui. qui fait partie des artistes qui vous ont marqué. Oui. L'artiste, en tant que tel, par sa personnalité, par ce qu'il nous fait découvrir, par ce qu'il est, ça vous plaît, Alex Vizorek?
Oui, parce que quand on n'est pas cultivé en musique classique, à l'époque, je pouvais citer deux noms, c'était Menuhin et Rostropovitch. Parce que ils avaient aussi pris la peine de rentrer dans la culture plus globale. Quand Rostropovitch prend son violoncelle, je sais pas si c'est un coup de marketing ou si c'est un coup d'émotion c'est un peu les deux et qu'il s'installe au pied du mur de Berlin, il rentre dans l'histoire plus largement que dans l'histoire de la musique.
Il avait oublié de prendre une chaise, du coup il a emprunté la chaise d'un vigile, il s'est assis sur la chaise et puis il a joué les suites de Bach. Thank you. Extrait de la suite numéro 2 en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Mstislav Rostropovitch, pour évoquer avec vous ce souvenir du mur qui s'effondre, Alex Vizorek, ou du moins de cette entrée en matière de la musique classique à vous. Comment finalement des gestes comme celui qu'a fait Rostropovitch en s'installant devant le mur ont permis à des personnes comme vous qui étaient moins sensibilisées à la musique classique de s'y intéresser, c'est ça?
Ah ben c'est sûr, quand à 8 ans, moi j'ai donc je suis de 81, donc 8 ans, 80. 89, donc j'ai 8 ans, et c'est des images qui passent. À l'époque, on avait 3 chaînes, sans vouloir faire le vieux. Mais à l'époque, mes parents disaient, à la nôtre, on n'en avait qu'une. Mais voilà, et donc effectivement, on a vu ça, c'était marquant. Et donc, il était parmi d'autres badauds, quoi, en fait, quelque part. Et donc, oui, on voit ce musicien classique, habillé de très chic, comme vous dites, qui a oublié son siège, et qui s'installe, et tout le monde se tait.
Et avec ce choc aussi de ce mur qui s'effondre quand on a 8 ans, enfin, j'imagine que ça parle moins qu'à un adulte. Mais...
L'aspect géopolitique nous passe totalement au-dessus du ciboulot. Mais par contre, l'effervescence et l'effet que ça fait sur les adultes qui ne pensaient jamais voir ça de leur vie presque, en fait, c'était marrant. Ouais.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
On hésitait tout à l'heure, Alex Vizorek, entre un acte marketing ou un acte politique dans le geste de Mislav Rostropovitch d'aller s'installer devant le mur. Mais est-ce que l'acte politique peut attirer à l'art? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez été sensibilisé d'une certaine manière à des formes d'art par aussi la sensibilisation politique? On sait que ça vous intéresse, la politique.
Oui, par contre, je vois pas le lien que vous voulez faire avec...
C'est-à-dire qu'un acte comme celui de Rostropovitch, on peut le prendre aussi comme un acte politique.
Ah, moi, je pense que tout est politique. C'est-à-dire que tous les artistes, en choisissant même de dire « je ne suis pas politique », c'est politique. C'est-à-dire qu'ils choisissent de ne pas s'intégrer à ce qui se passe aujourd'hui, à la violence des choses, pour créer par ailleurs. Je pense que c'est pas un problème. Il y a des grands artistes qui ne se sont pas intéressés aux politiques. Il y a même des grands artistes qui ont été soutenus par le politique. La Fontaine ou Eisenstein étaient très très bien vus par leur régime et sont des grands artistes. Et à leur manière, sans doute, ils ont glissé.
Il y a de la dissidence là-dessus.
Oui, mais presque... Moi, j'aime bien l'expression « fou du roi » pour les humoristes, parce que le fou du roi était payé par le roi. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand on me paye dans cette maison, c'est a priori plus le peuple qui paye. Mais quelque part, quand même, avec une forme de... Le roi accepte d'être moqué, mais voilà, on ne sait jamais trop jusqu'où. Si vous aviez Stéphane Guillon à ce micro, il vous dirait qu'il y a des limites.
Mais justement, pour revenir à votre émission Par Jupiter, que vous co-animez avec Charline Van Hoenacker sur France Inter tous les jours à 17h, comment garder cette liberté? Est-ce qu'il n'y a pas de l'autocensure qui peut arriver à tout moment?
De l'autocensure, oui. De l'autocritique, oui. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas taper sur les mêmes tout le temps. Maintenant, la Macronie prend une place énorme, donc on tape dessus de manière plus large. Mais évidemment qu'il ne faut pas oublier Mélenchon, qu'il ne faut pas oublier le Front National, qu'il ne faut pas oublier la droite, qu'il ne faut pas oublier le Parti Socialiste. Et une fois qu'on a tapé un peu sur tout le monde, on ne peut plus nous mettre dans une forme de militantisme. Maintenant, on est dans une forme de critique, donc fatalement plus du pouvoir que de l'opposition, parce que c'est le pouvoir qui fait. Mais quand le pouvoir change, on essaye aussi d'être vigilant.
Thank you.
Kotaro Fukuma interprète cette ballade numéro 1 en sol mineur opus 23 de Frédéric Chopin, car Chopin, Alex Vizorek, est un compositeur que vous écoutez beaucoup.
Oui, c'est-à-dire que je vais dire ça sur une chaîne de musique classique, donc c'est peut-être honteux. J'aime bien mettre un fond sonore. Et il est des compositeurs, Bach au violoncelle, ça va, Chopin au piano, c'est très agréable. On ne peut pas étudier sur du Wagner. Ça n'est pas une bonne solution pour écrire des textes comiques. J'aime bien ce côté d'avoir l'impression que derrière moi, il y a quelqu'un qui caresse mon oreille. Ça me plaît bien. Et donc, j'ai trouvé en Chopin un bon compagnon. Et puis après, le mythe romantique autour du personnage et son voisinage avec Pierre Desproges au Père Lachaise. Ah. C'est très rigolo. Donc, il y en a un qui a une tombe, on la voit même pas en marche dessus. Elle est tout à fait minable. C'était une demande de sa part. Et l'autre.
Pierre Desproges.
Bien sûr, Pierre Desproges. Mmh. Et l'autre qui est fleuri comme les dictateurs. Cette tombe, on la voit même plus tellement, et qui est magnifique. Et ils sont dans vraiment la même rangée. C'est grand, le Père Lachaise. Et donc, je me dis que c'est rigolo parce que, dans ma façon de mener ma carrière, si on peut parler de carrière. On est un peu tiraillé entre ces deux choses-là. C'est-à-dire que de temps en temps, on aimerait bien être cette tombe fleurie ayant marqué son époque.
Prise au sérieux, quoi.
Et l'assumant. Et en même temps, on aimerait aussi bien avoir cette espèce de je m'en foutisme à la des proches. Et donc, on est tous sans doute quelque part sur cette ligne qui relie ces deux tombes.
Justement, choisir d'être humoriste, ça c'est un choix qui s'impose à vous. Comment ça s'est passé? Parce que vous avez fait les cours Florent et petit à petit, comment vous vous êtes découvert cet humour?
Écoutez,
vous l'avez travaillé?
Vous connaissez un peu les comédiens, alors vous voyez qu'il y en a qui ont des talents innés, ils prennent un texte et ils l'incarnent, ils le vivent. Dans l'œil, on voit que c'est pas eux, c'est le personnage. Je n'avais pas ce talent-là. En revanche, je sais pas, je dois avoir ce truc qui fait que je suis pas 100% dans le texte, mais pas 100% en dehors, à l'anglaise, un peu. Du coup, avec une ironie sur ce que je suis en train de faire. Ce qui, pour pas mal de textes, fonctionne. Il y a toujours un personnage dans Tchekhov qui est un peu à côté de ses pompes, et qui est ironique et qui est drôle et qui fonctionne. Et donc, il y a ça chez Shakespeare aussi dans certaines comédies. Et donc, ces rôles-là, je les tenais pas mal. Par contre, quand il s'agissait d'être le Cid
ou
Ivanov, là, c'était plus bon pour moi. Je dis pas, je vais travailler, hein. Mais peut-être je ferai un bon Don Diego dans quelques années, mais pour le Cid, c'est passé. Donc voilà, et donc je me suis dit, en fait, tu as quelque chose qui tient de la fibre comique, utilise-la, et en plus tu aimes écrire, et donc je parle de moi à la troisième personne, et la deuxième personne, oui, ça va, il y a encore de la marge.
Il aime écrire, donc.
Et donc il aime écrire, donc il se lança dans une carrière où lui-même était l'auteur de ses propres textes. Et n'en déplaise à Tchekhov et Shakespeare, ça fonctionnait mieux. Quand c'était Alex Vizorek qui écrivait pour Alex Vizorek, il y a peut-être pas de hasard, hein, on est quand même un cran en dessous. Mais du coup, je crois que j'étais très très honnête dans la façon de livrer ce que j'avais à raconter. Et puis le rire des gens, c'est quelque chose d'extrêmement jouissif. C'est-à-dire que le comédien, il peut estimer en sortant de scène que c'était une bonne, parce que lui était bien dedans et il s'est senti bien. Moi, si je sors de scène et que le public n'a pas ri, ça ne peut pas être une bonne. Donc, je dépends de la salle. On joue à deux, si vous voulez.
C'est dur.
C'est dur, et donc il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté pour que le couple fonctionne.
Thank you.
Zadok the Priest de Handel, interprété par le Gabrielli Players and Consort sous la direction de Paul Mark Krisch, pour célébrer avec vous, en fait, pas du tout ce qu'on croyait, cher Alex Vizorek, puisque même si c'est un hymne qui a été composé pour le couronnement du roi George II de Grande-Bretagne en 1727, le foot s'en est d'une certaine manière emparé.
Exactement, c'est le morceau qui a inspiré...
Tony Britten, c'est ça ?
Compositeur. Ouais. L'UEFA a fait recomposer, mais partant de là, l'hymne de la Ligue des Champions, qui est la plus prestigieuse des coupes européennes de football pour les clubs. Je sens que je vous apprends des choses.
Et, oui, c'est vrai.
Et donc, tous les fans de foot qui, dans les stades, beuglent des chansons à boire, à coups de bière et crient pour leur équipe, eh ben connaissent, ou en tout cas en entendant celui-ci, vont se dire, mais dites donc, est-ce que c'est pas là-dessus que je chante tous les mardis et tous les mercredis soirs et que je supporte mon équipe? Donc je trouvais ça assez rigolo, c'est mon petit plaisir coupable si vous en voulez pas, mais c'est pour relier je pense la grande culture et la culture très très populaire qui est le football, parce que en soi c'est une forme de culture à partir du moment où ça amène des gens en même temps à venir vivre la même chose. Je pense qu'on peut classer ça dans la culture.
Mais vous aviez fait le rapprochement entre les deux, entre l'œuvre de Handel, Tony Britten et puis
Vous me surestimez terriblement, mais ça me touche beaucoup. Mais on entend dans le côté
solennel
de l'hymne de la Ligue des Champions qu'ils ont voulu faire quelque chose de chic. Alors évidemment, c'était trop beau de reprendre Handel poste pour poste, pour prendre une expression de foot. Mais on n'est pas loin quand même. Il y a des moments quand ça monte. Là, on attend que le ballon arrive.
Est-ce que vous éprouvez une culpabilité? Vous êtes complexé par le fait de... Vous chantez très, très joliment là, mais le fait de ne pas connaître la musique classique, Alex Vizorek.
La méchanceté. Le pot et puis les fleurs. Pas du tout. Et je crois que c'est le problème, c'est le complexe. Pas du tout. C'est-à-dire que je vais adorer découvrir ceux qui connaissent très bien. Eh ben, ils ont plus la chance de découvrir pour la première fois une œuvre de tel ou tel compositeur. Alors que maintenant que je vous connais, je vais vous écouter tous les dimanches et je vais découvrir des choses et je vais essayer de les emmagasiner. C'est pareil pour le cinéma. On n'aura plus jamais la chance de voir Les Enfants du Paradis pour la première fois.
Quel dommage.
Ceux qui l'ont jamais fait, quel
vous
dommage.
Vous avez de la chance,
profitez-en.
Alex.
Et maintenant... Admirez la marche triomphale. Pierre en tête. Grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?» Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement. « Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé !» Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.
Pierre et le loup de Prokofiev avec l'Orchestre National de France sous la direction de Daniel Legati. Et c'est François Morel qu'on entendait comme récitant. François Morel que vous avez remplacé, je crois, Alex Vizorek, un jour qu'il n'était pas là ou absent ou malade.
Un matin, il y avait une scolaire pendant la semaine et je pense qu'il était en tournée par ailleurs. Et donc, comme les gens dans la maison savaient que j'avais déjà fait Pierre et le loup avec une plus petite formation dans le privé, il y avait une vingtaine de musiciens. L'orchestre Est-Ouest, avec qui on a joué à Paris, et puis qu'on va rejouer, je pense, aux Folies Bergères pour les fêtes de fin d'année. Et donc, ils se sont dit, prenons quelqu'un qui l'a déjà fait. Sauf que cette fois-ci, je me retrouvais avec l'Orchestre National de France, 80 musiciens derrière moi. Alors, je peux vous dire, quand ils envoient la marche de fin, ça part, et vous êtes décoiffés, quoi. Donc, c'est fantastique, fantastique. Et après, c'est une œuvre, à nouveau, on n'a parlé que de ça, mais de la porte ouverte à la culture. Je le vois à ce spectacle-là. Certains viennent parce que c'est moi, les parents. Les enfants n'en ont rien à fiche. Et surtout, les parents viennent avec l'espèce de certitude d'offrir quelque chose de qualitatif et de touchant à leurs enfants.
Et de pédagogique.
Et de pédagogique et de culturel. Et ceux qui l'ont eu eux-mêmes le transmettent. Et ceux qui l'ont pas eu se disent « je vais faire ce que mes parents n'ont peut-être pas fait avec moi ». Et donc se retrouvent des salles très attentives et très généreuses. Les gosses ont une générosité naturelle, c'est un spectacle vivant, ils se baladent dans les couloirs, ils se parlent. Est-ce que le canard est mort ? Il n'est pas mort. Ça, j'entends parler, j'ai jamais eu un public aussi dissipé.
Et vous, ça vous plaît d'être dans le rôle de passeur ? Parce qu'on parlait justement de cette approche que vous avez de la culture avec toute la franchise qui est la vôtre et qu'on a savouré pendant toute cette émission. Ça vous plaît d'être passeur comme
c'est
ça ?
C'est évidemment en grande partie pour ça que je l'ai accepté. Après, aussi par les noms qu'il avait incarné, c'est impressionnant le nombre d'acteurs qui ont un jour récité Pierre et le loup, mais sans doute pour tous la même raison aussi de vouloir être ce passeur-là avec la musique de Prokofiev derrière qui a tout de génial, parce que je pense que les musiciens classiques estiment que c'est très pointu. Et en même temps, c'est des tubes. C'est-à-dire, vous mettez quatre notes et...
Ah, vous avez tout de suite reconnu.
Et voilà. Et donc, ça, c'est fantastique. Il y a presque pas d'équivalent à Pierre et le loup. Donc, c'était une chance qu'on me le demande. Et bien sûr, l'envie d'être passeur et le plaisir d'être passeur. Les gamins qui viennent me voir, parce que après je papote avec les petits, je leur demande s'ils ont eu peur du loup, s'ils ont bien retenu les instruments et tout. Ils sont loquaces et ils ont déjà mille choses plus intéressantes que moi à dire sur la musique classique au sortir de ce spectacle.
Et l'autre chose que vous disiez et qui est appréciable, c'est votre curiosité devant les œuvres que vous ne connaissiez pas et que vous allez découvrir. Alors j'imagine que c'est pas le cas avec Carmen de Bizet que vous allez offrir vos amis de Bruxelles,
à Lille,
à vos amis du Nord, pardon, prochainement début juillet avec l'Opéra National de Lille. Mais là, vous allez écrire un texte, c'est ça ? Inspiré ?
C'est-à-dire qu'il m'a été demandé de remplacer certains dialogues, et donc je dois raconter l'histoire, c'est mon premier but, y insérer un petit peu de la nouvelle de Mérimée, et j'ai le droit un petit peu aussi de juger Carmen, qui quand même...
Alors, Alex ?
Bah ça je vous dis pas, mais elle est pas nette sur tous les domaines du sentiment.
Bravo, je vous félicite pas.
Oui. Je
rendez-vous
pense
à l'Opéra National
de Lille.
Bientôt. Merci beaucoup Alex Vizorek. On vous retrouve sur France Inter, bien sûr, tous les jours, aux côtés de Charline Van Hoenacker à 17h. auditeurs par Jupiter. D'ailleurs, ça, c'est demain, donc dépêchez-vous, préparez-vous. Et puis, on vous retrouve sur la scène de l'Opéra National de Lille très prochainement, en juillet. Toutes les informations sont sur le site de France Musique. À très bientôt.
J'espère.
Et merci encore d'être venu.
Merci.
Règle des institutés, avec un éclat métallique, et sur cette étrange musique, les ingares la célébrent. Tambour de Pascale et l'Ortra, et les guitares forcenées, glacées sous des mains obstinées, mêmes chansons, mêmes refrains, mêmes chansons, mêmes.
Un extrait de Carmen pour terminer cette émission en compagnie d'Alex Vizorek qui était l'invité de Musique et moi ce matin. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Un grand merci à Alain Joubert qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h et une très belle semaine à vous.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.